Orage mécanique. Comment la musique épouse l'image. Une émission présentée par Guillaume Martel et Christiane Passevant.
Alors, on commence avec... On a plusieurs films et on commence avec un film donc, d'Anthony Chapman, Young Heart, qui est passé d'ailleurs... au festival Chéri Chéri et qui sort donc le 19 février. Donc c'est l'histoire, bon, c'est une teen movie mais très jolie, très tendre et très naturelle. Donc Elias a 14 ans, il vit dans son petit village de Flandre. Son père est un chanteur un peu nunu, je vais dire, un peu style variétoche, etc. Mais qui a beaucoup de succès. Bon, lui, il est assez content du succès de son père, mais en fait, il aimerait bien quand même écouter un peu autre chose. Et voilà que son, juste en face de la maison, son nouveau voisin, qui a le même âge, arrivant de Bruxelles, emménage. Et il s'appelle Alexander. Elias réalise donc qu'il est en train de tomber amoureux pour la première fois. Ils ont tous les deux 14-15 ans. Il devra alors voir, évidemment, faire face à son... Est-ce qu'il va se faire accepter ou pas ? Donc ça provoque des sentiments naissants assez contradictoires et surtout qu'il trouble profondément parce qu'en même temps, il y a donc ce penchant à l'érotisme, mais en même temps... Qu'est-ce que vont penser les autres ? Est-ce que ses copains, ses copines vont l'accepter ? Surtout qu'il y a une copine, Valérie, à qui il est d'une certaine manière un peu promis. Voilà. Donc, on commence, il y a une très jolie bande-son. La bande-son, c'est de Ruben de Gazelle. Et donc, eh bien, on commence par... Bah, c'est le seul morceau d'ailleurs où il y a une chanson, une chanson de Christian Sivald.
Used to say my compass doesn't work, there's no more room to grow and a common path to walk, and you made me see your kaleidoscope of life, that everyone's their own, you see love right through your eyes. Is run into the great unknown, and all I know for now is that I'm safe and sound. Please don't let me leave. I need you to take the wheel.
Donc ça, c'était Christian Sivald. C'est la seule chanson qu'il y a dans la bande-son. Donc j'ai préféré vous la mettre d'abord parce que ça donne un peu, en plus de ça, le caractère du film qui est en même temps très mélodieux, très naturel, très doux, très tendre. Alors, je vais dire quand même que je vais vous demander de vous présenter. J'ai deux personnes qui sont venues squatter dans le studio. J'aurais rien demandé. Ils sont venus, ils ont forcé la porte. Donc ils vont être obligés de se présenter. Pierre.
Bonsoir, ben je suis Pierre, je viens squatter comme a dit Christiane et je vais essayer de vous accompagner dans la musique de film
avec le. Tu tapes pas sur la table.
Ah, je tape pas sur la table déjà.
Malheureux. Et toi ?
Coucou, bah c'est Réane.
Donc ça c'est une habituée, hein, je veux dire. J'ai squatté, j'ai un peu exagéré.
Et je viens squatter parce qu'il y a des merveilleux films que tu dois nous présenter. Donc je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas venir.
Merci Réane. Au moins, oui.
Je voudrais juste dire quelque chose sur cette chanson magnifique que nous avons
écoutée. Tu as le droit.
J'ai le droit.
Oui.
Je peux le dire maintenant.
Oui.
Bon. Bon, en fait, j'ai traduit les paroles parce que je ne suis pas bilingue. Et je trouve que la chanson pourrait très bien représenter la prise de conscience du personnage principal qui se rend compte qu'il a besoin d'une autre personne pour se guider, tout en étant pris dans l'excitation et la peur de l'inconnu. Il parle de boussole, le début c'est les gens disaient que ma boussole ne fonctionne pas. Enfin, déjà on comprend tout à fait le personnage en fait. Je ne sais pas si tu es d'accord Christian.
Si, mais c'est un peu ça, n'importe comment, cette chanson qui intervient plutôt à la fin du film, mais elle est là pour une bonne raison, c'est qu'en fait le réalisateur, donc Anthony Chatman et Ruben de Gazelle, on choisit ça justement pour donner, c'est pour ça que j'ai voulu la mettre au début, parce qu'en fait ça donne la couleur, d'une certaine manière.
Exact.
Hein. Alors, on va continuer, il y a pas mal des bribes de musique que moi j'ai bien aimé, parce que je vous dirai après aussi quelque chose sur Ruben de Gazelle, qui est quand même un jeune compositeur vraiment talentueux. Et donc là, on va continuer avec un morceau qui a pour titre « Grandfather ». Alors Pierre, tu avais quelque chose à dire sur Grandfather ?
Oui, je tiens à signaler que je n'ai pas vu le film. Alors je me suis laissé porter, imaginant mes propres couleurs et paysages. Dans l'ensemble, la musique crée une ambiance zen, relaxante. C'est une musique apaisante, une musique de relaxation, idéale même pour travailler. On peut travailler sur ce genre de musique ou simplement rêver avec une sensibilité marquée et une touche de romantisme. Pour Grandfather, le grand-père, alors on ressent toujours ce côté zen hein, en fait, hein, là on le sent bien quoi, ce côté zen relaxant, avec au piano des motifs simples et limpides, c'est très doux en fait. Le thème est simple en fait, c'est ce qu'il y a d'intéressant dans ces thèmes, ils sont tous simples en fait. Et reste dans la lignée comme le morceau Elias. On pourrait qualifier cette approche d'épurée, peu de notes, une écriture fluide et accessible et une atmosphère calme et détendue qui renforce l'émotion. Qu'en penses-tu, Christiane ?
Oui, absolument. Et d'ailleurs, ça va être évidemment souligné aussi dans ce prochain morceau qui a pour titre « A First Love ». Thank you. Alors ça, évidemment, il y a Guillaume qui me dit, mais ça te fait pas penser à Debussy? C'est ça? Tu m'as dit, il veut pas parler les mutiques.
Si, arabesque de Debussy.
Ah, merci, merci quand même. Parce que je vais pas me faire à chaque fois l'interprète quand même, faut pas exagérer, parce que moi j'y ai pas pensé, j'ai juste apprécié ce très très joli petit jeu sur le piano. Je trouve ça très tendre, très doux, ça va très très bien avec le film. On va passer tout de suite à The Lake. Alors là, je vais vous décrire un petit peu les images, puisque vous n'avez pas vu le film encore, mais là, vous le verrez la semaine prochaine. Eh bien, donc, dans The Lake, en fait, c'est une partie qui est très jolie, puisque c'est le jeu de Alexander et puis Elias, qui sont dans une eau très belle, un lac un peu dans la campagne, etc. Et c'est en même temps, c'est très joli, très tendre, très amoureux, mais en même temps, pas du tout. On pense pas immédiatement. On pense simplement à ces jeux d'adolescents ou d'adolescentes d'ailleurs, où il y a une espèce de promiscuité comme ça qui est agréable et qui est normal et qui est tout à fait naturel. Donc maintenant, je vous propose le château abandonné, The Abandoned Castle. château abandonné qui ressemble un peu au château de la Belle au Bois dormant. Qu'est-ce que tu en dis ?
Ben en fait, on retrouve plusieurs ambiances dans ce morceau. Alors, il y a quand même un côté très mystérieux. Hein, et, on entend même un moment les trémolos violents qui... enfin, je vais dire que c'est dissonant, c'est un peu inquiétant. Et on entend, enfin, pour moi qui n'ai pas vu les images, hein, je m'imagine de l'eau, je ne sais pas, j'entends de l'eau. Quoi. Et bien sûr, il y a du romantisme là-dedans. En fait.
Mais c'est-à-dire que c'est un moment où justement, si tu veux, le doute assaille un petit peu Elias, qui comprend pas ce qui lui arrive, ah, tu okay, vois, donc il y a ce côté-là. Alors, la menace, en fait, parce que, justement, j'en ai discuté, on va passer n'importe comment la discussion enregistrée avec Caroline Hérault à la sortie du film,
d'accord,
quand on l'a vu à Chéri Chéri, et donc, on n'était pas tout à fait d'accord, moi je voyais des choses, elle en voyait d'autres, mais c'est ce qui est intéressant.
Ah, bien
je
sûr.
Vous propose donc la discussion enregistrée avec Caroline Hérault.
Young Arts, que nous avons pu voir ensemble, qui était sélectionné pour Chéri Chéri, qui sortira en France, distribué par Epicentre Film. C'est un film réalisé par Anthony Chapman, son premier film, vu à la Berlinale, et qui s'est fait aider par Lucas Dont, qui avait réalisé Close auparavant. C'est des amis qui ont fait des écoles de cinéma ensemble en Belgique, et donc il y avait un regard sur le scénario et sur la façon dont il a travaillé son film. C'est un premier film qui est un coming age quand deux adolescents ou adolescentes se découvrent à l'amour et ont des sensibilités exacerbées envers une personne du même genre qu'eux. Celui-ci reste très doux, c'est son premier film, donc très autobiographique. Il nous a parlé longuement de son film avant et après la séance et donc on va suivre tout ce parcours de ce jeune homme dont son papa est un chanteur à succès là-bas dans sa ville. Cette rébellion que cet enfant va avoir au moment où un jeune voisin arrive en face de chez lui.
Mais en fait, c'est pas vraiment une rébellion, c'est plutôt une sorte de... Moi, mon impression, ça a été que ce garçon... était étonné des pulsions qu'il ressentait et qu'il en faisait un drame parce qu'il se disait « je ne vais pas être accepté par ma famille, par mes amis, etc. » Mais il n'y a pas eu vraiment une révolte et qu'il disait « je ne veux pas être différent. »
C'est lui quand même qui va chercher son jeune voisin, même si son voisin assume beaucoup plus, ce n'est pas sa première histoire d'amour à ce jeune voisin, avec un garçon, lui il assume complètement, c'est sûr qu'il n'assume pas. Parce que normalement, tout le monde le met avec sa petite copine qu'il a dans le village depuis longtemps. On l'a même déjà prévoit un mariage ensemble. Mais il y a quand même aussi une rébellion par rapport à son père et à sa famille. Quand ils veulent lui dire « Reste avec ces jeunes filles, qu'est-ce que tu fais ?» qui casse même le disque d'or de papa, il se sauve vers son grand-père. Son grand-père qui l'emmène en vacances ensemble dans un coin où il avait vécu son histoire d'amour avec sa femme. Et tout ça, le jeune est très touché par tout ce qui arrive.
À aucun moment, j'ai senti vraiment une animosité de la part des parents ou des amis vis-à-vis de ce garçon. La petite violence qu'il exprime à certains moments, c'est plutôt contre lui-même. Parce que le frère, il est OK. La mère, elle adore son fils. Le père, il est un peu étonné, il ne comprend pas trop au début. Puis après, bon, ça va. Le père de l'autre garçon, aucun problème. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt happy end. Il n'y avait pas une souffrance autre que personnelle du jeune garçon qui a du mal à s'accepter.
Mais, oui, il a du mal à s'accepter, mais il a du mal aussi à l'annoncer aux autres. Donc, il pense que tout le monde va être contre lui et le rejeter. Parce qu'il remarque un peu ce qui se passe quand même à l'école, qu'il est moqué par rapport au succès de son père. On se moque un peu de ses chansons à l'eau de rose que son père peut faire. Donc il a peur, il rejette son ami, après ami féminin, il revient vers elle à une fête. Il est très jaloux aussi de voir ce qui se passe de son nouvel ami I et des réactions qu'il peut avoir. Une fois que tout va bien, qu'il revient du voyage avec son grand-père, qu'il a tout à fait compris, qu'il verra que c'est juste intérieur, cette colère qu'il faut qu'il s'exprime et qu'il puisse l'annoncer à tout le monde. C'est la mère qui est la plus touchée au départ et qu'il accepte parfaitement, il n'y a aucun problème. Le frère, lui, il n'y a jamais eu de problème. Pour lui, il n'y a aucun problème. C'est tout naturel. En plus, ils n'ont pas beaucoup d'écart d'âge, donc tout se passe bien. Le père, qui est tellement dans son succès, qui pense qu'à ses chansons, de sortir des nouvelles musiques et ainsi de suite, qui est complètement à côté, qui ne voit pas son fils. Ils arrivent à se parler enfin. tout va bien. Et là, donc, ça finit dans un très beau happy end.
Ce que reproche l'adolescent à son père, c'est de s'être trop souvent... donc, il avait une vision complètement auto-centrée par rapport à ses chansons à l'eau de rose, comme tu dis. Et puis, bon, son petit succès personnel... Il n'y a pas d'animosité à aucun moment par rapport justement à ce que désire l'adolescent.
La crise d'adolescence qui est là, qui est bien présente.
Tout à fait.
Et donc c'est sûr qu'en plus ce père complètement auto-centré sur lui-même ne fait pas attention à ce que peut vivre et a envie de vivre son fils. On le voit déjà par son grand frère au départ. C'est le grand frère qui a fait rebelle contre son père. Ce qui va bien que son père, il n'y a que la chanson qui existe.
Oui, puis la chanson, ça ne correspond pas du tout à ce qu'il a envie. Voilà. Une séquence que moi j'ai beaucoup aimée personnellement, c'est la séquence quand donc les deux amis, Elias et Alexander, enfin c'est Alexander qui lui propose d'aller à Bruxelles, il va dans une boîte où il y a une personne trans qui se produit et il y a une chanson extrêmement belle et il y a donc tout un autre univers qui subjugue complètement Elias parce qu'il n'a jamais eu ça, il est dans un petit village, d'un seul coup il se retrouve à Bruxelles dans une boîte où il y a une chanteuse trans qui se met à chanter rien que pour lui puisqu'il est le seul spectateur en l'occurrence. Et là j'ai trouvé que cette séquence était peut-être pour moi en tout cas la plus belle.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en plus, personnellement, je connais cet artiste de cabaret. Là, c'est vrai qu'on le voit découvrir d'autres paroles de chansons, d'autres façons de chanter. Si son père chantait que des chansons d'amour, on est un peu à l'eau de rose, pouvait aussi lui parler, parce qu'il parlait de premier amour, de premier baiser, et ainsi de suite. Mais là, franchement, les paroles de cette chanson, de cet artiste de cabaret, bien vraiment lui toucher le cœur. Il est subjugué. Cette expédition à Bruxelles... avec Alexander, l'a vraiment rempli de joie.
Oui, là, c'est une aventure. C'est une véritable aventure et une véritable découverte. Parce que d'un côté, il y a les chansons du père qui sont un peu des chansons de beauf, très gentilles. C'est la petite maison dans la prairie. Et de l'autre côté, d'un seul coup, c'est complètement un univers différent, mystérieux, créatif. Parce qu'il faut dire que la chanteuse, elle a une très belle voix et elle interprète magnifiquement ses chansons. Donc, c'est un monde interlope. Après la petite maison dans la prairie, donc tu as de côté le monde interlope de Bruxelles, donc tu as envie d'aller à Bruxelles. En revanche, dans le village, je ne sais pas si moi j'ai vraiment envie d'y aller.
Pour le jeune garçon Elias, c'est un moment de respiration. Et en plus, qu'il peut partager complètement avec Alexander et d'être qu'avec lui aussi, c'est ce qu'il voulait. Vraiment, apporte un petit plus dans ce film, cette touche qui est de rafraîchissement. Même si après, donc, il part avec son grand-père. C'est un vrai et beau moment. Voilà, on se laisse emporter par ce film.
Un joli premier film teen movies.
Complètement.
Orage mécanique. Comment la musique épouse l'image.
Alors après notre générique habituel, il faut bien dire quand même qu'on est sur Radio Libertaire et puis qu'on est donc dans Orage Mécanique. Pierre, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on écoute donc le morceau Elias.
Oui, en fait, je voudrais dire que même si c'est une histoire personnelle, une histoire gay, une histoire personnelle du réalisateur... Hein,
Inspirée. Ce n'est pas vraiment... c'est pas un biopic. Hein.
D'accord. Et tu fais bien de le préciser, le film cherche à parler à tous ceux qui ont vécu un premier amour, mais applicable à toutes les orientations. Qu'est-ce que tu en penses, Christian ?
Ben c'est surtout, si tu veux, du fait qu'il y aura après l'interview, mais je pense que je peux le redire aussi, et ça aussi, ça m'a bien frappé quand il me l'a dit. Il a dit, en fait, j'ai fait ce premier film pour faire un film que j'aurais bien aimé voir. Quand j'étais jeune.
Jeune, oui, gamin, voilà. D'accord.
Maintenant, il a 35 ans, donc il y a 20 ans, il aurait aimé qu'il y ait des films comme ça.
Oui, je comprends. Oui. Thank you. Alors moi, j'imagine que cette musique représente le personnage principal. Je ne sais pas, puisque je n'ai pas vu le film, vu son titre en fait. Hein. Les arpèges apportent une sensation de légèreté, de brillance presque magique et vivant. Mais Elia, c'est un thème de quatre notes. En fait, c'est simple. Hein. C'est vraiment, il y a vraiment quatre notes. C'est presque enfantin qui traduit son innocence en fait. On peut dire, enfin, et identifier, ça c'est mon avis personnel, qu'il y a trois thèmes en fait distincts dans ce morceau. Le premier dans les aigus apporte une sensation de légèreté et de brillance. Le second, situé dans le registre médium, crée une impression de réponse. On dirait qu'il y a un dialogue en fait. Enfin, moi, ça me donne cette impression. Et le troisième, qui est plus grave, en fait, de l'aigu, en descendant les graves, il agit comme une conclusion, une coda, en fait, infinie. Le discours est terminé. Et ces trois thèmes, en fait, interagissent de manière indépendante, tout en restant harmonieux, et chacun est repris au moins deux fois. Si tu as fait attention, tu entends le premier thème, il est toujours répété pour que le cerveau le mémorise, ait le temps de le mémoriser. Voilà.
Mais n'importe comment, je pense que souvent dans les musiques de films, surtout quand il y en a comme ça de nombreuses, il y a souvent en tout cas une partie d'un thème, ou de deux thèmes, ça dépend combien il y a de thèmes dans la bande originale, mais qui sont repris, mais de repris d'une manière différente. Alors là, on va rentrer dans une autre phase donc de ce que ressent Elias, c'est « running away », ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que là, il se fuit lui-même.
S'enfuir.
Alors là, évidemment, on sent déjà qu'il y a un malaise, oui. C'est-à-dire que l'adolescence est en train de se poser vraiment beaucoup de questions par rapport à qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va être rejeté, etc. Donc, il faut dire que les deux jeunes comédiens sont absolument extraordinaires. D'accord. Parce qu'ils ont été vraiment tout à fait naturels. Rien ne les a vraiment gênés ou quoi que ce soit. Pour eux, c'était une forme d'amitié, point barre. Quoi. C'était très bien. Et donc, Ce qui aussi est important, c'est qu'à ce moment-là, donc il y a ce besoin de fuite. Et qu'est-ce qu'il fait, Elias? Ben, il se retourne en fait vers son grand-père.
Ah, d'accord.
Parce que le grand-père, ça se passe souvent comme ça, quelquefois. C'est-à-dire qu'on peut trouver un peu plus de compréhension en sautant une génération. Et donc, le rôle du grand-père, là, c'est vraiment quelqu'un, il est dans la nature, c'est un paysan, il est dans son tracteur, il amène les gamins sur le tracteur. Et puis, il y a aussi le lien avec les animaux, qui est très important aussi. Et voyant que le gosse est très troublé, il lui demande pas de confidence, c'est rien du tout, ça lui est complètement égal. Lui, ce qu'il veut, c'est que le gamin se sente bien et qu'il s'accepte.
Okay. Voilà. Est-ce que je pourrais rajouter, tu parlais de malaise en fait, et il est vrai que l'introduction c'est au violon, en fait, c'est des trémolos en fait, hein. Moi je dirais même, en plus, qu'il y aurait même de l'angoisse en fait, de la souffrance, mais il y a aussi de la tendresse en fait, il y a vraiment de la tendresse. Je veux dire, on ressent vraiment tout ça. Et en fait, oui, j'ai noté aussi qu'il y avait vraiment des dissonances au niveau des cordes, en fait, pour créer ce malaise, en fait, cette angoisse.
Alors, il y a une chose aussi que je peux dire, c'est que là, le titre, c'était Running Away, c'est-à-dire s'échapper. Hein. Et là, on va écouter un morceau qui a pour titre Les Ardennes, puisque le grand-père décide de l'amener dans un lieu où il a rencontré sa femme, son amour.
Ah, d'accord.
Et donc dire, tu sais, nous aussi, voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de problème, donc... Et tu vas pouvoir voir la différence de couleur qu'il y a entre, donc, justement, Running Away et Les Ardennes, qui sont un morceau beaucoup plus apaisé.
D'accord.
Alors là, c'est vraiment un morceau extrêmement bucolique, puisque on est dans les forêts.
Oui,
le grand-père et son petit-fils se lâchent complètement, se racontent. Il y a une intimité entre les deux qui est extrêmement forte. Et puis, il y a toujours, effectivement, ce côté un petit peu... parce qu'il faut dire une chose, il le dira d'ailleurs dans son interview, il est fasciné par Walt Disney.
Ah, ok, d'accord.
Donc là, moi, je lui ai dit, mais là, dis donc, ce morceau-là, c'est un petit peu, c'est quoi, c'est Bambi, là, que tu nous as fait, ou tu as voulu, ou quoi. Et donc, il a rigolé, il a dit, écoute, je suis tellement fascinée par la musique de Disney que c'est possible, sans le vouloir.
Sans le vouloir.
Il a dit, ce qu'il a fait, il va expliquer après ce qu'il a fait exactement, mais Moi, j'ai bien aimé les Ardennes parce que ce côté bucolique, et on a changé complètement de décor parce que en fait, il a tourné, il a cherché d'abord, ben, il a fait des repérages, il a cherché des endroits où il pouvait tourner. Finalement, il a dit non, j'arrivais pas à trouver exactement ce que je voulais. Donc, ils sont retournés dans, en fait, dans son village natal.
Ah,
et okay, il a d'accord. tourné dans son village natal en simplement en changeant évidemment les décors, les trucs, en changeant énormément de choses pour trouver un côté un petit peu intemporel. Parce qu'il a dit, je ne voudrais pas que ça soit classé, voilà, c'est un truc des années 80 ou 90, c'est ridicule. Il a dit, moi je voulais vraiment autre chose. Donc, et les Ardennes, ça lui a permis aussi une échappée, même pour lui,
d'accord.
par rapport justement à ce qu'il voulait montrer.
Mais là, en fait, dans ce morceau, on a vraiment une couleur sonore, contrairement aux autres morceaux qu'on a écoutés, en fait. Hein. Et on entend presque un chant derrière, on ne sait pas qui, cette espèce de mélodie lointaine, on entend même une espèce de flûte avec le souffle. Je veux dire, il y a des basses profondes, vraiment, il y a tout pour...
Tu veux dire, c'est les sept nains?
Ah, effectivement, tiens, j'avais pas fait. C'est vrai qu'on aurait pu. Non, mais j'ai pas imaginé ça.
Bon, écoute, franchement, je le dis parce que bon, c'est lui qui m'a parlé donc, de ça. Mais bon, Anthony, j'espère que je t'ai pas choqué si tu nous entends. Mais voilà, oui, pourquoi pas les sept nains.
Hein. C'est elle qui l'a dit, hein, Anthony, c'est pas moi.
On va enchaîner sur un autre très joli morceau qui, là, ça commence un peu à se concrétiser, l'acceptation, on va dire, la prise de conscience dont parlait quand tu parlais tout à l'heure et qui, justement, l'amène à voir les choses un petit peu autrement. Il y a ce voyage, bien sûr, à Bruxelles, mais surtout le fait d'accepter, parce que Alexander, lui, il n'a pas de problème parce qu'il a vécu ailleurs, il n'a pas de tabou, quoi que ce soit. C'est juste Elias qui a des tabous. Donc, Friends. Et ensuite, on enchaînera donc sur la voix d'Anthony qui pourra expliquer, et non pas, il aura pu à passer par moi, pour expliquer un peu sa manière de faire.
Orage mécanique. Comment la musique épouse l'image.
La musique dans Young Hearts a vraiment un rôle absolument essentiel. D'une part parce que il y a le succès du père, il y a une musique un petit peu gnangnan, on va dire, la classique, un peu voilà, middle class. Et puis il y a également la musique chantée par la chanteuse absolument extraordinaire à Bruxelles.
Ah oui, oui.
Ensuite, tu as aussi Alexander, il est pianiste.
Ouais.
Et pour finir, tu as la musique, écoute, les adolescents, les adolescents dans la fête, par exemple. Donc ça fait beaucoup de types musicaux. Donc pour moi, c'est devenu du coup un rôle quasi principal bien dans cette histoire d'amour. J'aimerais que tu me parles de tes choix musicaux concernant évidemment les musiques. Et bien sûr, j'aimerais que tu me dises un mot sur le compositeur qui s'appelle donc Ruben de Gazelle.
Mon père était chanteur. Dans ma vie, le showbiz et la musique étaient toujours là. Mon père était toujours dans les opérettes. Donc, ce n'est pas des opéras, mais un peu, je ne sais pas la différence actuellement. Mais il a toujours chanté Phantom of the Opera. Tous les jeux très classiques, donc la musique de de Andrew Lloyd Webber était, et les musicals étaient toujours là dans ma vie. Aussi, on a regardé beaucoup de films avec des grands orchestres, donc les films très Hollywood classiques. Donc j'étais vraiment obsédé par des films très hollywoodiens, ouais, très classiques. Donc j'avais toujours, après j'ai vu un film, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours acheté les CD pour listen to the... Donc la musique, c'était juste ça, it was always in my life, hein, parce que mon père était là, le showbiz était là. Et aussi, j'ai toujours pensé que je voulais être chanteur. Donc, j'ai toujours fait un piano et mes études à l'école musicale. Mais aussi, j'avais toujours une caméra dans mes mains. Donc, c'était un peu les deux mondes que j'aimais. Parce que ma grand-mère était aussi chanteuse. Elle a toujours fait des opérettes. Elle est encore en vie, donc elle est très musicale, très classique. Un soprano. Elle a fait conservatoire. Après, elle avait déjà 3 enfants. Donc, quand elle avait l'âge de 30, elle a fait conservatoire à Gand. Donc, c'était juste très important. Et pour moi, j'écris aussi toujours quand j'entends la musique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une liste de 15 ou 20 numéros sur Spotify. Et je l'ai donné à mon compositeur Ruben, que j'ai rencontré à une série pour Lionsgate à Irlande, qu'on a fait juste avant. Et normalement, j'ai toujours un autre compositeur, mais quand j'ai rencontré Ruben, le style de lui était exactement que je le veux dans mon film. C'était là déjà pendant l'écriture. Je savais quel style je voulais. Très classique aussi. Un grand orchestre sur fin. Très classique parce que la musique de les films Disney, que j'étais obsédé, comme Beauty and the Beast, La Belle et la Bête, Petite Sirène, c'est tout de Alan Menken. C'est un compositeur incroyable, incroyable soundtrack. La musique est aussi dans le Spotify list. Donc Ruben était aussi un peu classique comme ça, mais avec un twist dans maintenant. Et c'était juste normal pour moi pour aussi raconter le père comme je connais mon père. Mais c'était trop chouette pour faire toutes les chansons en irlandais, en flamand. Parce que c'est un peu tout ce que le père chante, c'est tout ce que Elias fait. Donc le père chante un peu l'histoire que Elias a, le premier amour, il chante et tout ça. Et tu dois suivre ton cœur.
Ce que lui dit d'ailleurs le grand-père.
Mais dans la chanson,
dans
au
la
fin.
Chanson, ouais, ouais. C'est un côté un peu mièvre.
Voilà. Non, mais c'est la musique, c'était pour moi c'est 50% d'un film parce qu'à l'école du cinéma, il dit toujours tu peux pas utiliser de la musique parce que c'est la deuxième émotion et tu as pas besoin de ça, mais pour moi c'est I love it. I would put music everywhere.
Et ça passe parfaitement dans ton film. Pour moi, c'était un des personnages principaux.
Ouais, ouais, parce que c'était vraiment un film pour des jeunes aussi. Initialement, c'était vraiment le film que je voulais qui existait quand j'étais jeune et c'est pour ça que j'ai aussi fait les choses qui sont dans le film aussi. Je pense que si le film est un drama pour des adultes très noir ou très gris, le film, I would make different choices. Mais maintenant, au fin, il y a le grand final et on a un grand orchestre avec un choir, les garçons qui chantent. J'ai toujours pensé, est-ce que c'est trop? Mais après, j'ai dit non, je voulais avoir ça quand j'étais jeune. Parce qu'aussi, dans les films Disney, c'est aussi très grand, avec un très grand orchestre. Et j'aimerais toujours ça. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi aussi et les chansons pour des adolescents. Ils sont très connus aussi à Belgique. Un bon choix, je pense. Maintenant, quand je vois le succès avec beaucoup de jeunes, c'est parce que je pense que l'histoire, c'est clair. C'est pas trop compliqué, je pense. Je pense que c'est nécessaire pour avoir aussi des films avec un bonheur. Et dans la musique aussi, c'est tout avec un bonheur. Et après le Covid, je pense qu'on a besoin de des choses qui sont positives aussi.
Orage mécanique. Comment la musique épouse l'image.
Alors c'est le moment évidemment où on peut parler quand même un petit peu du compositeur Ruben de Gezel, que malheureusement je n'ai pas eu en interview. C'est un compositeur de musique de film, c'est un jeune compositeur et il travaille aussi beaucoup sur des séries télévisées puisqu'il a rencontré d'ailleurs le réalisateur quand il travaillait donc en Irlande sur série. Il est notamment connu pour avoir reçu le Grand Prix de la musique originale du film Clara Sola de Nathalie Alvarez-Mézène. C'est un film qui est sorti il y a, je pense, un petit peu plus de 2 ans, qui est un très très beau film sur une femme de 40 ans qui est renfermée sur elle-même, qui entreprend de se libérer des conventions religieuses et sociales très répressives qui ont dominé sa vie dans un village reculé du Costa Rica. Et petit à petit, ça l'amène, parce qu'elle est un peu une figure, elle joue un peu les saintes là-bas. Enfin, c'est pas elle qui le veut, mais plutôt sa famille. Et petit à petit, ça l'amène à un éveil sexuel et spirituel. Et ce qui est assez fantastique, c'est qu'en fait, ça provoque des transformations dans son corps. Mais enfin, on en reparlera parce qu'on a choisi avec Guillaume de passer après le Finally Together, enfin ensemble, donc de Ruben de Gezel, qu'il a donc composé. C'est sur le générique de fin de, eh ben, du film dont on vous parle depuis tout à l'heure, Young Hearts. Thank you. tout est apaisé. Donc voilà, c'est la fin d'une très très jolie histoire. Et donc toi, Pierre, tu voulais dire quelque chose sur la musique.
Ben en fait, pour moi, je ne sais pas si tu vas être d'accord, mais on retrouve tous les ingrédients du romantisme dans ce morceau. Hein. Il y a les voix, il y a les cordes, il y a la passion, il y a la sensibilité, il y a aussi de la tristesse, quoi, en fait. Hein. Et enfin, je trouve vraiment, on entend tout, vraiment le romantisme dans l'état pur. Je ne sais pas ce que tu en penses, si tu es d'accord avec moi.
La Belle au bois dormant. Moi, je continue. Moi, j'ai écouté ce que m'a dit Anthony.
Moi, je ne dirais pas ça, mais... Non, mais je trouve
que c'est... Mais c'est beau, s'il y a des belles... Il a dit d'ailleurs qu'il y avait de très belles musiques sur les... Bon, je ne suis pas Disney, hein, je vous le dis franchement. Moi, je suis plutôt Fred the Cat, mais bon, ça ne m'empêche pas qu'on peut aussi apprécier les jolies musiques qui sont sur mais les...
Moi ça ne me rappelle pas Disney, hein, franchement.
Ah bon, ça te serait...
Non, mais moi, vraiment, c'est du...
Ah non, mais tu n'as pas rencontré... Il faut que tu rencontres Anthony. Peut-être il va te convaincre. Moi, là, il m'a convaincu, franchement. Bon, c'est alors, touchant. Maintenant, on pense, parce que, bon, il fallait quand même qu'on parle, puisqu'on a dit un mot sur Ruben de Gesell. Donc, maintenant, comme je vous ai parlé, évidemment, de Clara Sola. Et donc, on a choisi un titre avec Guillaume, qui est un peu l'histoire de ce que je vous ai ébauché tout à l'heure, c'est-à-dire la transformation de cette femme et la transformation aussi physique, puisqu'elle a des protubérances qui lui viennent dans le dos au moment où elle est dans dans une sorte de source. C'est un très très beau film, un film étrange qui bascule complètement et c'est vraiment très très beau. Alors ça, c'est Transformation.
Thank you.
Orage mécanique. Comment la musique épouse l'image.
Eh ben, dis donc, tout plein de bonnes choses, hein.
Voilà, alors là, c'est donc le deuxième film, When the Light Breaks, de Runar Runarsson. Je n'ai qu'une musique, une musique que j'adore. Donc, le 19 février sort ce film islandais, donc, de Runar Runarsson, When the Light Breaks, qui peut se traduire par réfraction de lumière. En effet, il est immédiatement question de lumière, puisque sur la grève, face à l'océan, un jeune couple, Una et Didi, contemple le soleil couchant comme la fin d'une journée ou d'un temps, on ne sait pas. Una et Didi sont étudiants en art et vivent avec passion une histoire d'amour restée secrète jusque-là, car Didi a déjà une compagne dans une autre ville, Clara, et demain, il promet donc de rompre avec Clara, qui vient le retrouver, mais demain n'arrivera jamais car il est victime d'un accident aussi brutal et filmé avec une comme une fatalité soudaine, absurde, une explosion dans un tunnel, les flammes et les voitures sont coincées et c'est une lumière absolument éblouissante qui marque en fait une fin de prologue et c'est le générique qui commence. Una se rend le lendemain matin, se réveille, évidemment Didi n'est plus là, se rend à ses cours et un ami lui parle d'un terrible accident dans un tunnel. Mais on ignore encore tout de Didi qui a pris la voiture de cet ami. L'espoir, puis le doute, les appels sans suite et le déni de la mort. Unité de temps, 24 heures pour vivre un deuil. 24 heures d'un coucher de soleil à celui du lendemain, mais avec l'absence. Runarsson réussit à faire percevoir le drame, l'insupportable, comme un épisode douloureux certes, mais aussi avec une sensibilité infinie, une réflexion sur la mort et la création artistique, avec, au son, la musique absolument sublime de Johan Johansson, Odi et Amo, dont le texte a été écrit par un poète romain, Catulle, presque un siècle avant Jésus-Christ. La musique accompagne parfaitement le film, magique par la lumière, les images, le soleil, l'océan, le ciel, l'infinie tristesse et l'infini que l'on retrouve comme une boucle après 24 heures qui ont complètement changé la vie d'Una, Clara et leurs amis.
Thank you.
était en Islande et là, eh bien, on va au Moyen-Orient. From Ground Zero, c'est 22 courts-métrages sur Gaza, tournés à Gaza, et c'est au cinéma depuis aujourd'hui. Une série de 22 courts-métrages réalisés dans la bande de Gaza par des réalisatrices et des réalisateurs palestiniens. Au départ, le projet est porté par le cinéaste palestinien Rachid Macharawi pendant la guerre de destruction lancée contre la population de Gaza par le gouvernement israélien après les attaques du 7 octobre 2023. Le but du projet a été de donner une voix à 22 cinéastes gazaouis afin de raconter des histoires inédites, qu'il s'agisse de la guerre et de la création cinématographique et autres en temps de guerre. Ce qui est très important parce que montrer ce qu'on peut faire en temps de guerre dans une situation absolument tragique, dramatique, un génocide, c'est de montrer qu'il y a toujours quand même une possibilité de trouver autre chose par la création. Et ça, je trouve que ça le montre bien dans le film et c'est très fort.
Oui, c'est un moyen de dire que la vie elle continue quoi qu'il arrive.
C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est l'idée. C'est tout à fait l'idée. L'ensemble des films, chacun d'une durée de 3 à 7 minutes, présente une perspective étonnante sur la vie et la réalité à Gaza. Pour cela, les 22 cinéastes ont choisi des expressions tout à fait différentes à travers un mélange des genres. La fiction, le documentaire, le docu-fiction, l'animation ou encore le cinéma expérimental. Le film est sur les écrans depuis donc aujourd'hui. Et aux États-Unis, il a fait salle comble, notamment à San Diego, où l'avant-première prévue a dû se répéter 3 fois parce qu'on devait refuser du monde. Il faut dire que la qualité des films est étonnante si l'on songe aux conditions de tournage. Les 22 cinéastes ont pris des risques non seulement pour tourner, mais aussi pour envoyer les rushs, sans pour autant que l'imagination, l'inventivité soient de reste. Et la musique est aussi là, aussi présente, dont nous écouterons 7 morceaux grâce à la maison de production qui se trouve à Rennes et grâce à Laura Nikoloff qui suit et défend le projet depuis presque 2 ans. Alors ça, c'était donc la musique, c'était le thème principal, donc ça s'appelle From Ground Zero, bien sûr. C'est une musique de Nasir Chama, qui va revenir à plusieurs reprises d'ailleurs à l'intérieur durant tous ses films. Un mot sur la production, ça s'appelle Co-Origine Production, c'était fondé en 2023. Donc vous voyez, c'est tout neuf. C'est une société de production cinématographique dédiée à l'interculturalité. Je vais y arriver, et à faire entendre des voix rares, orientées vers un cinéma mondial et indépendant. Co-Origine cherche à créer des dialogues culturels et à offrir des perspectives différentes à travers ses œuvres cinématographiques. Co-Origine Production a participé à de nombreux festivals internationaux, notamment Cannes et le TIFF. La société développe actuellement plusieurs projets de cinéma, documentaires et des longs métrages de fiction avec des cinéastes ouvrant des réflexions qu'il s'agisse du Moyen-Orient, de l'Asie ou de l'Europe. Je dois dire qu'à Cannes, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, le dernier festival. Ils n'ont pas été acceptés dans la... Parce que c'était 22 courts-métrages, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas pourquoi, toujours est-il. Ils ont décidé, ils ont donc loué une tente et ils ont mis des écrans et ils ont projeté les 22 courts-métrages qui sont vraiment fabuleux et ça a été un succès fou. Voilà, il faut le dire. Alors, on commence avec Selfie de Rima Mahmoud. C'est un documentaire de 7 minutes 49. Le film ouvre en fait la série et montre bien comment la réalisatrice a envie de faire savoir que la tragédie ne suscite pas l'idée de revanche ou de haine, mais plutôt l'envie de créer un lien avec l'extérieur. Puisque qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend une clé USB en racontant un peu toute l'histoire, ce qu'elle vit, etc. Et elle met cette clé USB dans une bouteille qu'elle jette à la mer.
C'est une redite.
Voilà.
C'est une redite moderne.
Mais voilà, c'est avec une clé USB. Et donc, elle en même temps, ça montre un petit peu comment cette femme ne veut absolument pas se perdre dans les décombres de la guerre. Et ça, c'est très important. Donc, il y a Nasir Chama, ça s'appelle Selfie, il a fait une musique pour ça. Alors un mot sur la réalisatrice Rima Mahmoud qui s'intéresse particulièrement aux thématiques liées aux femmes et aux jeunes. Elle a déjà fait 22 films à son actif. Elle est diplômée en médias et communication ainsi qu'en études palestiniennes et en production cinématographique. Elle a reçu plusieurs distinctions dont le Creative Woman Award en 2020. On passe maintenant au deuxième, c'est No Signal de Mohamed Al-Sharif. C'est une fiction de 4 minutes 19. Ce sont les efforts d'un homme pour sauver son frère sous les décombres. Leur conversation est empreinte d'incertitude alors qu'il souffre d'un manque d'équipement. Parce que, évidemment, il y a beaucoup de cas comme ça à Gaza, des gens qui sont ensevelis, qu'on n'arrive pas à libérer. Et donc, ce n'est pas évident d'obtenir les secours. Ce qui est intéressant dans ce film, qui est une fiction, puisqu'il est inspiré, bien sûr, par des choses qui se sont passées, mais ils ont dû tourner sous les bombardements.
Ah, oui.
Ah ben, ils risquaient leur vie en tournant ce film. Hein. Voilà. Alors, Mohamed Al-Sharif est basé à Gaza. Il est diplômé en administration des affaires et en cinéma. Acteur et réalisateur, il est notamment connu pour son court-métrage « Minwen Lawen » et l'animation « Shebak Al-Balad ». Il a également joué dans « Sheehan Blaze of Fury » et a suivi une formation en interprétation cinématographique et production de films. On passe au troisième. Troisième, c'est celui que je l'aime beaucoup, parce qu'il y a énormément d'humour dedans. Ça s'appelle, pour le titre, c'est « Sorry Cinema » de Ahmed Hassouna. C'est un documentaire de 6 minutes 56. Alors au départ, on assiste, c'est quelqu'un qui se dit « Moi, je veux faire un tournage avec une histoire. » Alors on se trouve dans un improbable salon, très très bien, tu vois, un salon arabe là, avec les beaux...
Très, très
tu sors, tu ouvres la porte et tu te retrouves devant des ruines.
Des ruines.
Voilà. Et donc, alors, il y a le clap, il y a tout ça, tout, pour faire un tournage, parce que c'est un cinéaste. Mais le problème, c'est que d'un seul coup, il se retrouve, il dit, mais non, je vais jamais pouvoir le faire, ce film, c'est pas possible, parce que d'abord, il faut que je nourrisse ma famille. Il faut que je trouve de l'eau, il faut que je trouve à manger. Je peux pas, les priorités, elles changent. Et puis alors, il dit, oh, sorry, cinéma. Il est tellement désolé. Ce réalisateur, donc, qui vit sous le siège et les bombardements dans le nord de Gaza, c'est important aussi, il était du côté de Chatikam, c'est-à-dire juste à côté de la frontière avec Israël. Ahmed Hassouna est un passionné de cinéma. Il a réalisé de nombreux courts et longs métrages, ce qui lui a valu le surnom de ciné-marathonien en raison de son engagement sans relâche dans la poursuite de l'art cinématographique. Et là, on a là à nouveau la musique, tu vas être contente, de Nasir Chama. Everything is fine. Tu as vu, mais c'est un petit peu.
Ah, mais ça,
c'est un peu indien.
C'est
un mélange oriental. C'est très très beau. Il a fait un boulot extraordinaire. Et là, donc, on parle justement d'un film flashback de Islam Al-Zeriel. C'est un documentaire et c'est l'histoire d'une petite fille, Farah, qui en a marre et qui déteste le bruit des avions, de l'artillerie et des drones. Alors, après la destruction de sa maison, elle s'est mise à se coucher tôt par peur de l'inconnu et elle combat les sons. Elle a son chat avec elle. Elle combat donc ces sons qu'elle ne supporte plus de la guerre et elle se met des écouteurs sur les oreilles et elle pratique sa passion, la danse.
Magnifique.
Voilà. Donc, ça, c'est Islam Al-Zeriel. C'est un très, très joli film. Elle est née à Gaza, elle est réalisatrice de télévision et de documentaires, elle est diplômée en art télévisuel du Palestine College, elle possède Une solide expérience en montage vidéo et photo, elle a collaboré avec plusieurs organisations dont Ashtar for Theater Production et The Women's Affairs Center. Spécialiste des logiciels Adobe, elle est également engagée dans la défense des médias. Le cinquième film, Echo, de Mustapha Kolab, c'est un film expérimental de 2 minutes 32. C'est une... Alors là, c'est très intéressant au niveau du son, parce que c'est un homme qui est installé sur la plage. C'est une longue nuit sombre. Il est donc face à la mer, à Gaza. Et là, le son, il entend le son des bombes, des ambulances, des drones, des appels à l'aide, tout ça. Et dans cette capture du son et de l'obscurité physique et métaphorique qui enveloppe Gaza, il y a d'un seul coup le téléphone portable était toujours très, est toujours très important là-bas. Et donc il a des nouvelles de sa famille qui est obligée de fuir parce que la maison vient d'être bombardée. Donc ils doivent aller là. Ah oui, mais non, on va là, mais, ah oui, mais on ne peut pas aller là parce que là, il est possible que ça sera peut-être pire. Et donc c'est ça. Tu as donc plusieurs nappes de son, tu as la mer, tu as les bruits de la guerre, et tu as en même temps ces voix qui viennent du téléphone. Donc, Mustapha Kolab est un producteur de films d'animation depuis 15 ans qu'il utilise à des fins d'intervention psychosociale auprès des enfants. Il a travaillé à l'Institut des Arts Fekra à Gaza pendant 10 ans et a également travaillé sur des productions théâtrales. Le sixième film, All is Fine, de Nidal Damo, on reprend le titre de la musique. C'est un documentaire de 4 minutes 29. C'est un comédien qui fait du stand-up à Gaza. Alors, il s'inspire des luttes quotidiennes pour survivre et apporter un peu de réconfort à un public blessé dans un camp de réfugiés. Le problème, c'est que à chaque fois qu'il veut donner son stand-up, bah, il ne peut pas parce qu'il y a des bombes qui tombent, etc. Et puis, il a un autre problème, c'est que lui, il veut quand même bien se présenter. Donc, il veut prendre une douche, mais il habite sous une tente. Donc, sous la tente, bah, il faut trouver de l'eau, déjà. Après, il faut la chauffer. Après, il faut prendre la douche, etc. Donc, c'est son combat pour donner ce stand-up où là, évidemment, il y a plein de public, même s'il y a du danger, etc. Alors, Nidal Damo est un réalisateur qui est né à Nouserrat. C'est une partie de la bande de Gaza. Et il est metteur en scène et acteur de théâtre. Il a mis en scène plusieurs pièces pour enfants et joué dans des productions telles que All is Well et Sarah. Titulaire d'une licence en travail social et de l'université ouverte d'Al-Quds, Al-Quds c'est Jérusalem, il s'est formé en art dramatique et en soutien psychologique. Le septième film, Soft Skin, dont nous allons avoir de la musique, eh bien, ce film dure 7 minutes 54. C'est de l'animation documentaire explorant la guerre du point de vue des enfants qui écrivent leur nom sur leur corps pour être identifiés en cas de décès et de démembrement. Donc, les gosses se parlent et puis ils disent « Ah bah oui, mais non, non, il ne faut pas que tu les fasses parce que tu te rends compte si après t'es bombardé et puis après on ne retrouve pas ton corps, comment on va t'ensevelir, etc. » Mais les gosses, ils trouvent ça...
c'est normal.
C'est la normalité de la guerre. Voilà. Donc, spécialité dans la décoration pour les films. Donc, c'est un film qui a été fait par Ramis Macharaoui. C'est le frère de celui qui fait Songe, celui qui a eu l'idée du projet au départ. Il est également formateur en animation pour enfants, cofondateur de la fondation Fekra à Gaza. Il utilise l'art cinématographique comme outil thérapeutique pour les jeunes. Et là, on écoute... La musique. Soft Skin. Alors maintenant, c'est donc Charm al-Balbisi. C'est un film expérimental. C'est une danseuse qui perd des membres de son groupe de danse durant la guerre. Et donc, elle voyage pour les retrouver et parvient à communiquer spirituellement avec eux. C'est un petit peu l'histoire de la quête de Tu sais, de l'histoire égyptienne, qui pour retrouver donc le corps de son compagnon. Donc, palestinien de Gaza, Bachar al-Balbisi est un danseur et chorégraphe reconnu, spécialisé dans la danse traditionnelle et contemporaine. Fort de son expérience au sein d'institutions culturelles et éducatives, il coordonne des initiatives culturelles visant à promouvoir le patrimoine palestinien à travers la danse. Neuvième film, The Teacher, de Tamer Nijim. C'est un documentaire de 5 minutes 15. Le parcours quotidien d'un enseignant déplacé, allant d'une file d'attente à une autre, luttant pour assurer ses besoins les plus basiques. Et là, on voit justement comment recharger mon portable. Il y avait des endroits où les gens avaient plusieurs avec des prises comme ça. Ils disaient, écoute, reviens dans une heure, peut-être que je vais réussir. Mais tu sais, si l'électricité est coupée, tu ne l'auras pas. Je vais essayer, je vais faire ce que je peux. Et donc, tout le monde est assez solidaire, faut dire. Donc, né à Gaza, Tamer Nijim est un artiste de théâtre et de télévision qui collabore avec Ashtar for Theatre Production and Training. Diplômé en médias de l'université d'Al-Azhar, c'est une université à Gaza. Mm-hmm. Il a également suivi une formation en interprétation théâtrale. Il a participé à de nombreux festivals locaux et internationaux. Le dixième film, A School Day, de Ahmet Al-Danaf. C'est une fiction. Ça, c'est un film absolument bouleversant. C'est l'histoire d'un élève qui est très studieux, qui tient vraiment, parce que il faut dire une chose, c'est que l'éducation à Gaza, même en Cisjordanie, c'est vraiment un instrument de lutte, de combat, parce qu'il faut pas, être, il y a pas d'analphabète, quoi. Ils sont tous hyper, ils sont tous plein de masters, de machins, etc.
Ils sont cultivés.
Très cultivés. C'est un endroit où tu peux parler vraiment politique de manière très très intéressante. Donc cet élève, il se dit, il fait son cartable, son sac à dos, etc., avec ses livres et tout, et il va poursuivre son cours. Mais le problème, c'est que son professeur a été tué. Donc, il s'installe devant sa tombe et il lit ses livres.
Oh, c'est magnifique.
Ahmet Al-Danaf est vidéaste et photographe, diplômé en multimédia de l'université d'Al-Azhar. Il a travaillé avec des médias tels que la BBC, ABC News et Oxfam. Spécialisé dans la réalisation de documentaires, il est également producteur de médias. Le 11e film, Overload, de Ala Islam Ayoub. C'est un film expérimental. Une jeune fille se sent coupable de ne pas avoir emporté ses livres avant d'être forcée de quitter sa maison, ce qui l'a fait se sentir comme prisonnière d'un des romans sur la migration palestinienne de 1948. Tout lui revient à la gueule. Et sa mère lui dit, mais non, on peut pas amener, tu t'amènes juste un peut-être, mais tu laisses tout. Mais elle dit, oui, mais je vais les perdre, ça va être bombardé, j'aurai plus mes livres. Donc c'est ce qui se passe avec cette jeune fille. Et donc, la réalisatrice, Ala Islam Ayoub, est rédactrice de contenu et réalisatrice aussi, tout court, de films. Diplômée en physiothérapie de l'IUG, elle possède une expertise en référencement, en création littéraire et en scénarisation de documentaires. Elle travaille également comme animatrice de podcasts et de voix off. Et là, on a une musique de Natu va aimer, de Nasir Chama, et là c'est Des Songs. Thank you. Alors en fait, ces 22 courts-métrages sont partagés en deux parties. Donc là, on est dans la deuxième partie. C'est le 12e film. Ça s'appelle Hell's Haven de Karim Satoum. C'est un docu-fiction de 4 minutes 47. Paniqué, Karsem se réveille enveloppé dans un linceul blanc. Alors ça, c'est un film très étrange. Parce qu'en fait, il se réveille dans un... là où on met les cadavres.
Ah ouais,
donc, mais c'est comme un sac de couchage, quoi. Tu vois, et le film reconstitue des souvenirs de la nuit précédente.
Mais pourquoi ils se retrouvent dans ce linceul?
Mais parce que c'est comme ils ça, c'est l'histoire. Voilà, c'est Hell's Haven.
Ah ouais, j'ai compris. Voilà. Ouais.
Donc c'est Karim Satoum a suivi plusieurs formations en théâtre. Il est acteur depuis 5 ans. Il a participé à de nombreuses pièces de théâtre. Heaven's Hell est son premier court métrage. C'est un premier court métrage extrêmement fort, extrêmement puissant. Le 13e film, 24 Hours, 24 heures, de Ala Damo, c'est un documentaire de 6 minutes 02. En 24 heures, Moussab est sauvé 2 fois des décombres dans des zones qui lui avaient été dites sûres. Sur les réseaux sociaux, il passe en revue les actualités concernant ce qui s'est passé ce jour-là. Ala Damo, originaire de Gaza, est diplômé en relations publiques et possède 7 ans d'expérience dans les arts thérapeutiques pour enfants. Il collabore avec des institutions locales pour promouvoir l'expression créative et la paix à travers l'art. Ça, c'est très important aussi, parce qu'ils sont tous liés vraiment à... Bon, allez, on veut vivre normalement, quoi. Le 14e film, c'est Jad and Nathalie de Oz Albana. C'est un documentaire de 3 minutes 13. Oz est un acteur de théâtre de Gaza. Il revient dans son quartier détruit et sous les décombres d'une maison repose sa bien-aimée, Nour, avec tous leurs rêves d'une vie ensemble. Et c'est cette histoire qu'il raconte dans le documentaire. Donc, et là, on a une musique, et je vous parlerai après, de Oz Albana. Thank you. Donc c'était la musique de Jad and Nathalie. C'est une musique de Joanie Curtet, qui est complètement un petit peu autre chose. Mais il faut dire qu'il y a une diversité dans les films qui est assez extraordinaire. Alors, je voulais vous dire un mot, bien sûr, du réalisateur, Oz Albana. C'est un acteur de télévision et de théâtre, professeur de théâtre, dramaturge et metteur en scène. Il a travaillé dans des séries télévisées telles que Milad Al-Fer et Shuhud, ainsi que sur des pièces comme Al Ramadiyoun. Il a remporté plusieurs prix pour ses projets de théâtre pour enfants. Le 15e film, Recycling, de Rabab Ramis, c'est un documentaire de 3 minutes 15. Alors ça, c'est génial. Bon, je vais vous dire tout de suite, disons, vous allez comprendre. C'est-à-dire qu'avec un bidon d'eau, qui est difficile d'aller chercher, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut boire, faire la cuisine, laver les légumes, se laver, laver le linge, et finalement, on arrose les toilettes.
Les plantes.
Et après, on arrose les plantes. Ouais. Voilà, c'est une famille de réfugiés qui doit utiliser l'eau devenue une source rare de la manière la plus efficace possible. Rabab Ramis est spécialiste en multimédia. Diplômé en médias numériques, il a mis en scène des pièces pour enfants et a travaillé comme Rabab Ramis, c'est une jeune femme. Elle a travaillé comme formatrice en art dramatique et en soutien psychologique. Alors là, on va retrouver évidemment Nasir Chama avec Everything is Fine, parce qu'on laissera n'importe comment la musique et puis on parlera des autres films sur la musique. Mais on laisse un petit peu, tu vas être content, tu vas pouvoir danser.
Je vais pouvoir danser. Vous ne me voyez pas, mais...
Je vous laisse, elle danse. Bon, alors le 16e film, bon, sur cette Everything is Fine, le 16e film, c'est un film que personnellement j'adore. Ça s'appelle Taxi Wanissa de Etimad Washa. C'est une fiction de 4 minutes 48. Eh bien, Taxi Wanissa, c'est une ânesse de Gaza. Et donc, il fait tout le tour. C'est-à-dire, elle part le matin. Son propriétaire l'aime beaucoup. Hein. C'est plutôt plus un compagnon qu'un propriétaire, d'ailleurs. Ahmad, parce qu'il s'occupe d'elle. Il lui fait des petites caresses après avoir dit au revoir à la famille. Et puis, c'est formidable parce qu'il fait le tour. Alors, on voit, il trimballe des victuailles, des gens, la presse, des gosses qui vont à l'école. Enfin, bon, d'un tas de choses. Mais toute sa journée, c'est comme ça. Mais malheureusement, il y a une explosion et Ahmad, donc son compagnon propriétaire, est perdu dans l'explosion. Et Wanessa, le cœur brisé, elle refuse de le laisser derrière elle. Mmh. Alors elle le cherche. Basée à Gaza, Etimad Washa a été coordinatrice du programme vidéo au Women's Affairs Center de 2001 à 2018. Réalisatrice de films documentaires et de fiction, elle est également formatrice en cinématographie et montage. Elle a dirigé plusieurs festivals et projets de films d'étudiants. Le 17e film, Offerings, de Mustapha Al-Nabi. C'est une fiction de 4 minutes 43. C'est l'expérience d'une romancière face au déplacement et à l'effondrement de la civilisation autour d'elle, alors qu'elle cherche une vie meilleure. Écrivain et réalisateur palestinien, Mustapha Al-Nabi a publié plusieurs romans et pièces de théâtre. Il a mis en scène 25 pièces et réalisé de nombreux documentaires. Collaborateur de chaînes internationales, il a remporté 25 prix et a été membre du jury dans plusieurs festivals aussi de cinéma. Tu vois, ils sont tous dans le cinéma, dans l'éducation, dans les gosses, etc.
Mais c'est incroyable.
Le 18e film, c'est un titre très simple que tout le monde peut comprendre, c'est « No ». Voilà, donc on a compris. De Anna Elewa, c'est un documentaire de 7 minutes 31. C'est le parcours d'un réalisateur pour trouver un moment de joie au milieu de destructions inimaginables, de la mort et de la perte à Gaza. Et là, ça a été fait donc par Anna Elewa, qui est journaliste et passionnée. Elle est la fondatrice et directrice de l'agence Anna, spécialisée dans les services visuels, audio et multimédia. Elle dirige également la chaîne numérique Ona Aldafa et enseigne au Collège universitaire des sciences appliquées. Et là, on écoute une musique donc de sol qui correspond donc à No, et ça par un groupe qui s'appelle Soul Band, Rawek Wa Adi.
بكرة الأزمة بننساها وبتعدي والضحكة الحلوة حنشوفها أكيد
اتفائل حاول روق وهدي أيام الحلوة حترجع بالتأكيد
بكرة الأزمة بننساها وبتعدي والضحكة الحلوة حنشوفها أكيد
الأزمة الكل معاك كمل حلمك وابني فلسطين
بكرة الأزمة بننساها وبتعدي والضحكة الحلوة حنشوفها أكيد الحاول روق وهدي الأيام الحلوة حنرجع
نشوف الكل بخير قادرين نعيش الحياة ونحلي
وبكرة الأزمة بننساها وبتعدي والضحكة الحلوة حنشوفها أكيد اتفائل حاول روق وهدي الأيام الحلوة حترجع بالتأكيد
بكرة الأزمة بننساها وبتعدي
والضحكة الحلوة حنشوفها أكيد
فقال حاول روق وهدي
الأيام الحلوة حترجع بالتأكيد
Voilà, il y avait une chanson quand même, il en fallait bien une. Donc on arrive au 19e film, Farah and Myriam de Wissam Moussa. C'est un documentaire de 5 minutes 43. Ce documentaire explore la vie de Farah, qui a 10 ans, après la guerre. Et durant cette guerre, elle a vu sa meilleure amie, Myriam, perdre sa famille dans un bombardement. Ayant passé sa vie assiégée à Gaza, Farah se dit que... Elle réfléchit, puis elle se dit que finalement, elle croit qu'elle va libérer les oiseaux de compagnie de son père de leur cage.
Oh.
Et elle ouvre la cage.
Oh, excellent.
Née en 1981 à Deir al-Bala, Wissam Moussa est réalisateur et responsable des relations publiques à la radio Fursan al-Erada. Il a réalisé plusieurs films, dont 15 in Gaza pour Al Jazeera English, et a participé à des festivals internationaux. le 20e film, Fragment de Bassel El Makoussi. C'est un film expérimental de 3 minutes 24, une juxtaposition de vidéos, de photographies et de peintures, entrecoupées avec le travail d'un artiste sur une peinture qui est achevée à la fin du film. C'est assez extraordinaire, c'est très beau à voir. C'est vraiment une création magnifique, vraiment très belle. Compte tenu en plus de ça, comment il a pu réaliser ça. Donc né à Gaza, Bassel El Makoussi est un artiste visuel et photographe indépendant. Il a étudié l'art au YMCA de Gaza et a exposé à l'international, lauréat de plusieurs prix. Il enseigne à Jabalaya, Rehabilitation Society. Jabalaya est un des camps donc, à peu près au milieu de la bande de Gaza. Le numéro 21, c'est Out of Frame de Neda Abou Asna. C'est un documentaire de 6 minutes 51. Une artiste visuelle du nord de Gaza retourne dans son atelier détruit, cherchant ce qui reste de ses œuvres. Et là, il y a des œuvres absolument fantastiques, magnifiques, notamment une tête comme une sculpture avec des morceaux de miroir. C'est très, très beau. Elle nous parle de ses peintures. Elle époussette ses peintures dans l'espoir de transmettre son exposition d'art à travers les mots. Et c'est vraiment très beau. Donc Neda Abou Asna est rédactrice en chef et présentatrice palestinienne, titulaire d'une maîtrise en audiovisuel et cinéma. Elle possède une grande expérience en radio, cinéma et écriture journalistique. Le 22e, c'est Awakening de Madi Kreira. C'est une animation, c'est absolument formidable. Je dois dire que j'ai été... C'est vraiment très très beau. C'est un père qui a perdu en fait la mémoire il y a 10 ans à cause d'une explosion en 2014. Parce qu'en 2014, il y avait déjà la guerre. Il la retrouve après une autre explosion pendant la guerre de 2024.
C'est incroyable.
Et là, et donc, il y a ce chant de cette petite fille, c'est un chant a cappella qui dure 16 secondes. Donc c'est très rapide, mais je vais vous parler après donc du réalisateur.
علق بالكتاب في كل يوم حصار وبكل يوم غنى هما بدوا الدمار واحنا نبدا البنى احنا العشاق.
Alors ça, donc c'est Awakening, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire se réveiller, en train de se réveiller. Donc Mehdi Kreira est marionnettiste et directeur d'un théâtre de marionnettes à Gaza. Il a produit de nombreuses pièces pour enfants et anime des ateliers pour former les jeunes à l'art de la marionnette. Ce qui est formidable, c'est qu'en fait, toutes ces marionnettes ont été détruites lors des bombardements. Oui. Donc, ils ont refait des marionnettes avec, avec ce qu'ils trouvent par
les
terre.
Les moyens du bord.
C'est-à-dire avec... Mais c'est magnifique, avec des boîtes de conserve, des petits morceaux, des trucs, etc. C'est vraiment, c'est superbe. Donc là, on reprend la musique, encore une fois, Everything is Fine de Nasir Chama, parce que je voulais vous dire un mot donc, sur le film Songe de Rachid Macharaoui, qui sort le 2 avril au cinéma, dont on reparlera.
Bah alors du coup, si on veut
la
voir...
La musique. Ah ben, le film, tu veux dire le film là ?
Les petits courts-métrages.
Ils sont sur l'écran, depuis aujourd'hui.
Ah, d'accord. Et dans quel cinéma ?
Ah, je sais pas, je ne sais pas cinéma.
Faut qu'on aille chercher.
Bah, il faut regarder là. Non, j'ai pas. Elle me l'a dit. Comment? Mais je me souviens pas.
On va aller chercher ça alors. Allez.
Orage mécanique. Comment la musique épouse l'image?
On va parler maintenant de Songe de Rachid Macharaoui, qui sort le 2 avril au cinéma et que j'espère on aura évidemment à l'antenne de Radio Libertaire dans plusieurs émissions. Voilà. Donc Songe de Rachid Macharaoui, qui sort le 2 avril au cinéma et que moi personnellement j'aime beaucoup. Alors c'est une histoire un peu dans les mêmes thématique, puisqu'en fait c'est l'histoire d'un petit garçon qui a 12 ans et qui habite en Cisjordanie. Et voilà que son pigeon voyageur, eh ben, il est parti. Bah, alors il dit, mais où il est mon pigeon? Et alors lui, il est persuadé qu'il est allé certainement dans l'endroit où il est né. Ah. Ah, donc l'endroit où il est né, c'est à Haïfa. Et il faut voir que Haïfa, c'est à peu près sur la même ligne que Jenin. Donc il dit, il arrive à convaincre donc son oncle, un de ses oncles, et puis une cousine, il faut et vraiment m'amener, on va partir, on va le retrouver. Il part avec sa petite cage, ils partent en voiture, ils ont tout un périple, etc. Et là, c'est quelque chose, il s'appelle Sami, et avec son oncle et sa cousine, il part donc à la recherche de ce pigeon disparu. Et ça devient évidemment bien plus qu'une simple quête, comme vous imaginez. Donc, c'est une exploration des liens humains, comme le dit donc Macharaoui, des lieux et des souvenirs, parce qu'ils rencontrent des gens, et puis ils se disent, ah oui, mais alors là, ma famille habitait là, etc. Et c'est aussi une tentative de préserver les rêves. On parlait tout à l'heure comment échapper à tout ça. Bah, c'est les rêves, malgré la dureté de la réalité et l'absurdité du quotidien. Ce périple devient une découverte de la beauté qui réside en chaque être humain et dans chaque endroit, une manière d'inventer l'espoir et de forger des protections intérieures contre les désillusions constantes issues de l'inconnu et de l'irrationnel. Le film Songe est pour moi, dit donc Rachid Macharaoui, une expérience cinématographique qui invite le spectateur à parcourir une Palestine où les rêves individuels s'entrelacent avec le rêve collectif. Ça, c'est très important aussi.
Ah oui.
Parce que le cinéma est une langue capable de préserver nos rêves, notre identité et notre mémoire. Il est crucial en tant que Palestinien de réinventer notre patrie sur le plan cinématographique. Cela passe par des récits audacieux et novateurs qui nous représentent et participent à la construction de notre histoire. Songe est une road movie et qui cherche donc une route et qui la crée, cette route, en chemin. Donc c'est à partir du 2 avril et nous recevrons évidemment Rachid Macharaoui pour justement reparler de son film. On va passer au quatrième film, La mer et ses vagues. Alors ça, c'est un film que moi, j'ai beaucoup aimé, de Liana et de Renaud. C'est une expérience poétique, c'est un film libanais. À la manière, c'est un peu à la manière d'un conte des mille et une nuits contemporaine. Mais c'est également la métaphore d'un monde déréglé, le cri d'alarme d'une société minée par la violence et la corruption, qui entraîne toute une population vers la catastrophe. Ou vers quoi, finalement? On ne sait pas. Et parmi les questions que se pose la jeunesse, par exemple deux des personnages du film, Mansour et Najwa, il y a celle-ci. Que peut-on espérer de ce territoire, de cette ville, Beyrouth, qui semble complètement désertée? Un passage pour fuir? En ouverture du film, le visage d'une jeune femme de profil se tourne lentement vers la caméra, donc vers le public, et prononce cette phrase à la manière d'une prophétie. « Je reviens des ténèbres. Mon pays est en ruine. » Mais ne m'a pas enterrée. Défigurée et borgne, elle poursuit. J'ai payé de mon œil pour venir témoigner. Cet œil éteint veille sur le passé. À l'intérieur se cachent mes soupirs, les sourires de mes amis et les lettres des êtres aimés. Puis elle affirme, rien ne pourra m'arrêter. Et puis une lumière dans la nuit qui tombe. Chanteuse dans le petit passage qu'on a passé du film. Qui chante?
C'est Maïs Mustapha, donc c'est l'actrice principale du film, une des actrices principales parce qu'il y en a plusieurs. Et à l'époque du tournage, donc elle avait 14 ans Et c'est une jeune Syrienne, donc de Daraa, qui est une des villes au sud de Damas, qui a été aussi par ailleurs l'étincelle de la révolution syrienne. Donc on l'a rencontrée dans une école de musique, où on cherchait un profil un peu... Enfin, on cherchait ce profil de notre personnage principal, Najwa. Et on a fait un casting où on a vu une cinquantaine, même plus, 80 filles, jusqu'à trouver cette petite pépite, qui donc est clarinettiste, chanteuse, avec une disponibilité à l'art et à la musique et au jeu, qui était étonnante.
Parce que c'est une bonne comédienne hein, aussi. Hein.
Oui, on a travaillé avec elle, mais pas tant que ça, parce qu'elle a rejoint l'équipe du tournage que 5 jours avant le début du film. Ça a été vraiment, comment dire, un moteur sur le tournage. Elle a ensorcelé l'équipe. Elle est assez incroyable. Et c'est un profil étonnant, parce qu'elle vivait dans un camp de réfugiés, donc à la Beka, où vraiment, ils nous ont accueillis à bras ouverts, c'était magique. Ils dormaient à 10 dans une même chambre et ils nous ont toujours, son père nous a dit, ma fille est votre fille, maintenant je vous la donne. Et il était très heureux et très encourageant. Et donc, ça a été une très belle rencontre avec, elle a cassé tous les stéréotypes et depuis, elle est partie il y a un an à Michigan, dans un petit village, américain, je sais pas, une petite ville, une bourgade. Mmh. Depuis leur arrivée au Liban, ils avaient fait une inscription aux Nations Unies pour pouvoir être émigrés parce que les réfugiés sont là que de passage. Voilà, avant la chute du régime syrien, ils ont pu partir, s'installer avec toute cette grande famille dans cette bourgade américaine.
Inviter le spectateur à rentrer dans le film, à rentrer dans la fiction, à asseoir une forme de fiction. Tout ce que vous allez voir est faux, il faut croire, il faut qu'il y ait un rapport de croyance et c'est un peu un pacte qui est fait à ce moment-là entre un personnage très fictionnel, cette borgne dont on va entendre parler plus tard dans le film, qui est donc à l'origine, d'après le gardien de phare, de la création de la ville, en allumant un feu sur la colline, elle-même réfugiée. Et donc, c'est l'apparition de cette borgne, c'est cet appel à jouer le jeu de la fiction.
Mais les paroles elles-mêmes, elles sont extrêmement, qui moi m'ont apparu comme prophétiques. Est-ce que c'est tiré d'un poème ou c'est vous deux qui les avez écrites, ces paroles ?
Non, c'est nous qui l'avons écrit. Je me souviens que Renaud avait fait le premier jet, qu'on l'a retravaillé, après qu'on est passé aussi par la plume d'un ami un peu poète syrien pour redonner un peu de goût et de rythme à cette prose.
Parce que c'est écrit en français, en fait, à la base. On écrit en français, et donc du coup, à chaque fois... On doit passer par soit les personnages, soit les acteurs qui réinterprètent le texte, soit comme pour ce passage, cet ami poète syrien qui est passé du français à l'arabe.
À la fin de ce passage-là, justement, la borgne dit « rien ne pourra m'arrêter ». Donc, moi, j'ai vu ça comme une parole, évidemment, de résistance, voire de rébellion. C'est ce que j'ai vu, mais bon, maintenant, en tant que public, si tu veux, on projette notre propre vécu et nos propres désirs. C'est très radical ce qu'elle dit. Hein. quand elle dit que l'œil qu'elle a, qui est ouvert, éclaire justement les souvenirs, mais aussi les lettres des êtres aimés, etc., etc. Donc immédiatement, on pense aux disparus au Liban, évidemment, on pense à la guerre civile, etc., etc. D'autant que après ce prologue-là, ce voyage à travers la montagne, on ne sait pas d'abord, c'est au loin, on voit une lumière, c'est une lumière un peu entre chien et loup, donc c'est un peu étrange. Et d'un seul coup, cette lumière qui arrive sur nous et qui débarque dans un checkpoint. Donc, il y a des checkpoints toujours au Liban ?
Oui, il y en a beaucoup, il y en a eu beaucoup, notamment pour contrôle d'identité, pour arrêter les personnes qui n'ont pas leurs papiers. Enfin, ça arrive des checkpoints improvisés un peu partout. Mmh. Après, de manière plus systématique, il y en a pour le passage d'une région à une autre. Mmh. Bon, c'est un petit pays et on peut aussi s'imaginer que c'est la traversée de la frontière ou que c'est un passage clandestin qui est récupéré. Après, c'est militaire, on ne sait pas trop si c'est des militaires.
Mais ils ne sont pas militaires, ils n'ont pas de tenue.
Oui, enfin, ils ont une sorte de tenue de milicien, c'est-à-dire
oui,
qu'ils ont des, ils sont pas vraiment.
Enfin, je me suis dit, c'est pas l'armée, tu vois.
Oui, c'est pas une
officielle caserne.
Mais après, ça pourrait aussi l'être. Enfin, je veux dire, les militaires au Liban, ils ont aussi leur part de désœuvrement. Enfin, ils pourraient être des militaires, mais un peu dans une région où ils gardent plus rien vraiment. Où enfin, il y a un passage. Enfin voilà, on n'y a pas non plus, on ne s'est pas trop attardé là-dessus. Une des scènes qu'on avait écrites, une des premières scènes, c'était ce barrage où on demandait à le... Mais ça n'existe pas dans le film, mais on avait écrit une scène où un militaire demandait à un personnage de le faire rire, sans quoi il pourrait pas passer. Et au final, c'est autre chose qui se passe, mais un peu de cet ordre-là, mais plutôt l'arrivée par l'intermédiaire de la musique.
Le milicien, on va dire, qui est là, lui dit, mais d'abord, où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous faites? Et puis, ils disent, on va à Beyrouth pour se marier en Scandinavie. Ils commencent tous à rigoler, à se moquer, en disant, non, mais attends, qu'est-ce qui nous sort celui-là, là? Et puis, à ce moment-là, ça redevient sérieux, et il dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire, quel est ton métier? Et lui, il sort un œil, et il commence à jouer.
Oui, c'est un méjouez. Le personnage Mansour, donc, qui est joué par Mohamed Ammari, est un musicien de ney, mais aussi d'un autre instrument, beaucoup plus percussif et violent, qui est le méjouez.
Celui qu'on voit dans le film.
Oui, des instruments aussi, un peu plus ruraux, on peut dire, un instrument qui se joue principalement dans les arrière-pays et pour accompagner les mariages. C'est des instruments, il y a par exemple en Égypte, il y a le mezmar qui est un peu similaire, il y a le mejouez qui veut dire, mejouez ça veut dire la paire, parce qu'en fait il y a deux flûtes qui sont collées l'une à l'autre, et donc il y a quelque chose de polyphonique. Il y a un souffle qui sort et en même temps, il y a deux notes en même temps. On recherchait quelqu'un qui joue cet instrument. C'était notre critère pour le personnage de Mansour. On cherchait cet instrument à la fois, qui ressemble à un klaxon, mais en même temps qui réveille, qui étonne, qui a cette forme de... C'est un peu la cornemuse, quoi. C'est...
Oui, il y a quelque chose de la cornemuse. D'abord, différents instruments, on trouve dans les pays autour de la Méditerranée, quelque chose qui se rapproche, en tout cas. Et puis, bon, j'ai lu qu'il était joueur de ney, donc j'ai dit, c'est une forme de ney, c'est un autre, mais normalement, le ney, ça se met pas dans la bouche, alors que là, il met dans la bouche le bec de la flûte, donc c'est un peu différent. Au fur et à mesure que le crépuscule, puis ensuite il y a la nuit tombe, ça donne une sorte d'itinéraire comme ça, un peu magique, juste d'une lumière dans un endroit complètement vide. Et j'ai pensé, parce que chacun a ses petits repères cinématographiques, j'ai pensé au début de Vol au-dessus du nid de coucou, où il y a justement la même chose, c'est-à-dire c'est la même heure, et on voit une voiture, cette fois-ci, mais très loin, donc on voit pas qu'il n'y a pas deux phares, et il y a exactement ce même mouvement avant d'arriver à l'asile, et tu as exactement la même impression. Et moi, ça me donne, si tu veux, la sensation qu'il y a quelque chose qui va se passer. On ne sait pas quoi. Peut-être rien, peut-être quelque chose, mais en tout cas, il y a comme un peu un côté un peu menace.
C'est le début du film, c'est une façon... On plonge, le film est complètement dans le noir, c'est une nuit. Et du coup, la nuit, on est très attentif aux lumières. Et chaque lumière, la nuit, qu'elle soit artificielle ou... Enfin, chaque lumière, il y a une histoire avec une lumière. Donc c'est de cette ambiance nocturne, étrange, un peu terrifiante, oui. On s'approche de sources lumineuses et là, il y a de la vie à l'intérieur et c'est cette histoire qu'on va suivre. Ça aurait pu être une autre lumière, mais c'est aussi une façon de rentrer encore une fois dans la fiction. Le barrage aussi militaire, certes, mais c'est aussi à chaque fois de renouveler le pacte. Est-ce qu'on va continuer le film? Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout du monde? C'est aussi une façon de demander de venir avec nous, de voyager avec nous.
Est-ce que vous avez tourné le film de manière chronologique?
Pas du tout. On a tourné en deux segments. On a tourné ce qui se passe pour Mansour et Najwa dans un premier temps. Et ensuite, on a tourné l'histoire du gardien de phare et de la vendeuse de loto. Et au milieu, on a eu une césure de deux semaines ou trois semaines. Donc on a fait 10 jours.
Oussama Laouna Zahri.
Je reste sur Mansour et Najwa, donc ils reprennent la route, on les laisse, l'histoire ne le dit pas, mais on sait qu'ils sont repartis. Ils arrivent à Beyrouth, sur une place complètement vide, là c'est la panne sèche, donc ils abandonnent la moto, et en plus de ça, la moto ne leur sert plus à rien, si j'ai bien compris, enfin c'est évoqué. Et là, je ne sais plus si c'est elle ou lui qui sort le portable pour un mystérieux rendez-vous. Au début, on ne sait pas du tout ce que c'est. On voit juste une petite... c'est comme quand on regarde sur son portable et qu'on dit « Ah oui, vous êtes prêt ou pas prêt, etc. » C'est quoi, ça?
C'est des prétextes. C'est des prétextes parce qu'il faut qu'il y ait... Il faut qu'il y ait...
Ah ouais, mais c'est bien un beau prétexte, parce que moi, je me suis posé des questions et je n'étais pas la seule.
Non, on avance à tâtons, je ne sais pas, peut-être à l'image de ces personnages, ces pauvres personnes qui sont contraintes d'avancer, d'avancer à tâtons. Donc le film les accompagne dans ce mouvement-là, quelque part. Et puis, oui, il faut qu'il y ait un point B, alors, pour qu'il y ait un arc narratif ou quelque chose. Donc, c'est pas qu'on s'en débarrasse, mais c'est qu'ils ont un rendez-vous. Voilà, c'est important. Et en tout cas, pour s'accrocher un petit peu à quelque chose. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas le rendez-vous, c'est ce qui va se passer. C'est tout ce qui n'est pas prévu, justement. Et c'est ça qui nous intéresse de montrer et de filmer. C'est comme dans la vie, je veux dire, on est pris par quelque chose, on se dit on va aller là, et puis finalement, la vie fait, les hasards de la vie font que pour y aller, on va peut-être y arriver, mais pour y aller, en tout cas, il va nous arriver... tout un tas de péripéties qui n'étaient pas prévues.
Il y a aussi, à ce moment-là, à part cette espèce de petite pose à question, c'est qu'ils arrivent sur une place d'un quartier qui n'est pas très marqué, on va dire, une place assez simple, et qui pourrait être un peu n'importe où, c'est pas très, tu vois, spécifique de Beyrouth, on va dire, mais elle est vide, la ville est déserte. Et comme ensuite... on va se retrouver à quelques pas de là, avec dans l'histoire de cet homme, le gardien de l'électricité, de la lumière, dans un quartier hyper moderne, autour du phare. On se dit, mais ils sont où les gens? Qu'est-ce qui se passe?
Mais justement, à partir du moment où on fait le parti pris d'un phare, on fait le parti pris aussi d'une traversée d'un territoire et de personnes qui arrivent, qui sont étrangers, l'idée du phare, c'est d'accueillir, c'est le mouvement. On suit en travelling les pas de ces deux traversants sur l'asphalte, le tout dans un silence. Et donc, on a quelques balises qui sont ce lieu désert. C'est en fait le centre-ville de Beyrouth, qui est très connoté en fait, parce que depuis la fin de la guerre civile, donc en fait le centre-ville de Beyrouth était un centre-ville avant-guerre. À partir du moment où il a été complètement rasé, enfin détruit, puis après reconstruit après la guerre dans les années 90, il s'est transformé en un lieu qui est un lieu privé, un centre d'affaires, mais qui lui-même, ce projet a un peu échoué, parce que c'est un projet qui n'est pas un projet pour les gens, quoi. C'est ce qui est solidaire, ça s'appelle Société Libanaise de Reconstruction. Et donc ce lieu, c'est un lieu qui n'est que les Beyrouthins que ne connaissent, enfin ne traversent pas, et qui est de plus en plus vide. Enfin, il y a eu peut-être un an où il a essayé d'être un centre d'attraction, mais ça n'a pas marché dans les années 2000. Et en 2019, ce qui s'est passé pendant ce soulèvement populaire qui a eu lieu donc en octobre 2019, une des seules choses dont on garde, pour ceux qui ont vécu cette période, c'est le fait d'avoir occupé le centre-ville pendant 4 mois. Donc, on voit un peu en arrière-plan ces graffitis. Enfin, on voit aussi le passage d'une masse partie, disparue. Enfin, et le film a ça globalement en lui, même s'il y a beaucoup de silence. Le film questionne le départ, que ce soit des Syriens qui traversent Beyrouth ou des Libanais eux-mêmes qui s'en vont, de cette condition de migration et de quelque chose qui tombe en lambeaux, d'un territoire qui tombe en lambeaux. Voilà, il passe par le centre-ville, donc cette place désertée, c'est le centre-ville, et ensuite, après, ils rejoignent la corniche, qui est le seul lieu qui est donc frontalier avec la mer, une jetée, le seul lieu qui est un peu vivant, qui est le seul lieu où il y a un espace public.
وارتلت سماها الظليل احكيلي قصة جميلة قصة جاني الأطياب عضفة غاب ورود بخيلي قصص الهوى رحلة ليلة الحكي رحلناها قصص الهوى جنة بالحور الهني زرعنا عن رحلة طويلة رحلة ورم وعيد بدنيا تعيد بالأرض الجميلة
dans le film de Liana et Renaud, La mer et ses vagues. Mais ce que j'aimerais, c'est que c'est votre choix musical. Donc, il faudrait me l'expliquer.
Alors donc c'est une chanson de Fayrouz, mais c'est une chanson très peu connue qui existe, que je pense qu'il n'a pas été restauré. Enfin, c'est une chanson de ses premiers temps, donc probablement ça date des années 60, mais j'en suis pas sûre.
Elle a une voix extraordinaire là.
Et très grave et à la fois très aiguë. Enfin, oui. Et on aimait beaucoup cette chanson qu'on écoutait déjà il y a 10-15 ans. Et après, peut-être qu'on l'aime aussi pour ce qu'elle nous raconte. Enfin, elle commence par dire « parle-moi » ou « raconte-moi, raconte-moi une histoire longue ». Et puis après, elle parle de la terre et du verger, de tout ça. Et puis après, elle continue « raconte-moi, raconte-moi l'histoire d'un long voyage ». Ça nous parle aussi de cinéma et de conte, du fait de prendre la parole et se mettre à créer des histoires et se réfugier là-dedans.
Je voulais savoir si, dès l'écriture, vous aviez eu l'idée simplement d'une histoire comme ça qui se déroule sans qu'il y ait vraiment une idée préconçue, ou bien cette histoire de fable ou de conte ou même de pièce antique, puisque moi, ce qui m'a frappé, c'était les différents personnages qui agissent à l'intérieur du film vraiment comme des coryphées. Mais les coryphées, normalement, ils sont en dehors, tandis que là, ils sont au milieu de la scène. Donc, c'est un peu différent. Renaud.
Parallèlement à la découverte du phare, qui a été vraiment l'image, le point zéro du film.
C'est le phare qui a tout.
C'est le phare, oui, le phare au milieu des gratte-ciels.
Pourquoi ?
Parce que c'est une image qui existe et qui est là sous nos yeux et qui est incroyable. Donc elle est incroyable parce que déjà, dans sa réalité, on dirait un collage, on dirait quelque chose qui... Donc il y a ce phare dans ce quartier au milieu de tours modernes. Il y a un point de départ qui appelle quelque chose de surréaliste, enfin de symbole, de surréalisme. Et puis il y a ce gardien, et il y a toujours un gardien qui est payé par l'État libanais pour garder ce phare, pour veiller à ce que ce phare reste éteint.
Donc, il faut là, qu'il reste éteint.
Oui, parce qu'il y a un deuxième phare qui a été construit par les promoteurs pour pouvoir construire leur tour. Et ils se sont rendus compte au bout d'un moment que la tour qu'ils étaient en train de construire était en train de boucher la vue du phare. Donc ils ont dit... Pas de problème, monsieur le ministre, je vais payer pour un deuxième phare. Donc il a payé son deuxième phare, il a eu sa tour. Donc il y a toujours un gardien. Et du coup, ce désœuvrement, ça appelle aussi à beaucoup de... C'est romantique. Et parallèlement à cette rencontre avec le phare, on a rencontré Jihad Darwish, qui est un Hakawati, donc un conteur. Et on l'a beaucoup suivi, on l'a beaucoup entendu, et il nous a raconté plein d'histoires. Donc très vite, ces deux désirs, et de voir ce qui se passait pour le conte quand on essayait de le raconter au cinéma, de voir parce que ce qui nous intéresse dans le conte et avec Jihad, c'est comment il monte sur scène lui, il allume une petite bougie, et il part pendant des heures à raconter des histoires, et on voyage. Et les images qu'il crée avec les mots sont inouïs. Et donc c'est très peu de moyens et beaucoup de voyages. Donc on s'est demandé comment est-ce qu'au cinéma, avec très peu de moyens ou très peu de matière visuelle ou de choses comme ça, comment est-ce que ça pouvait ressembler au conte de Jihad. Finalement, on a mis un conte dans l'histoire aussi, mais...
Qui est le conte de cette borgne, voilà, qui est un peu la métamorphose.
Il y a le conte du loup aussi.
Oui,
ça c'est les croyances scandinaves. C'est les Scandinaves qui croient qu'en fait il y a une course effrénée entre la lune et le soleil,
oui,
et qu'il y a des loups qui viendraient manger les astres et que ça serait la fin du monde.
سياح القبطان والبحر يا مسوسح القبطان ويا ماريا يا مسوسح القبطان والبحر يا مسوسح جننتينا يا بنتي يا حلوة جننتينا يا بنتي يا حلوة.
Voilà, donc c'est sur la musique du film, donc La mer et ses vagues, que Liana m'avait envoyé en très bonne qualité. Je la remercie pour ça. Et donc, La mer et ses vagues, je le rappelle, c'est au cinéma depuis le 29 janvier. Donc, essayez de le voir rapidement si vous voulez le voir. C'est un film donc, de Liana et Renaud. Quand ils sont venus dans l'émission, ils m'ont parlé d'une exposition qui se passe à Lima, à l'Institut du Monde Arabe en ce moment, qui a pour titre « Samas de Zad Moultaka et Crier la paix ». Et c'est jusqu'au 6 avril. Et donc, ils m'ont fait écouter une musique, c'est une nouvelle musique libanaise, de la chanson libanaise. Et c'est donc, vous pouvez le voir, puisqu'il y a un pavillon, il y a toute une installation qui est faite avec des performances musicales pour 20 chanteurs. Ça se passe donc à Lima et c'est jusqu'au 6 avril à l'Institut du Monde Arabe.
Thank you. الخير وبنت وصادق في فاتك من وساكن من خير أريد وشوك من قطن من بطن
Voilà, donc on se termine un petit peu en retard. Je crois qu'on a un petit peu mordu sur notre temps, mais il n'y a personne derrière, donc c'est très bien. On a pu dire quand même pas mal de choses. Simplement, je voulais vous dire que nous nous retrouvons donc le 12 mars dernier. Une chose, et j'espère que je vais pouvoir... Pas dernier, mais prochain. Je crois que je fatigue. Ça, je dois être. Merci Pierre, je crois que je fatigue. Donc, non, c'est pas dernier, c'est prochain. Alors, donc, on se retrouve donc le 12 mars prochain. Et j'espère pouvoir inviter quelqu'un de la production d'un film que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Peaches. Two Bananas?
Two Bananas.
Peaches to
Bananas.
Voilà.
Go Bananas.
Ah, merci. Heureusement, il est là. Décidément, là, je fatigue vraiment. Voilà, Peaches Go Bananas. Et donc, c'est d'une réalisatrice qui s'appelle Rosier. Mais on va voir le film et n'importe comment, j'espère avoir la bande-son et vous la faire découvrir. Parce que c'est vraiment une personne assez exceptionnelle, tant la réalisatrice que d'ailleurs la chanteuse. Une vraie punk qui remet tout en question. Moi, j'adore ça.
Excellent.
Bah, merci beaucoup, Christiane, en tout cas, pour tout ça. Moi, je sais quoi aller voir ce mois-ci.
Bon, il se précipite au cinéma. Bah, là, c'est fermé. Hein, faut que j'attende un peu.
Je vais aller retrouver mon lit. Mais merci de nous avoir écoutés. Et puis, bonne soirée à vous tous.
Bonne soirée, merci.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Orage mécanique. Comment la musique épouse l'image ?